On va lire dans le livre des Juges. Dans le livre des Juges, chapitre 16, on va s'arrêter pendant trois dimanches sur l'histoire de Samson, personnage bien connu et finalement aussi mal connu. On lit, alors, Samson occupe quatre chapitres dans le livre des Juges. Ça commence au chapitre 13 et ça va jusqu'au chapitre 16. Nous, ce matin, on va considérer la fin de Samson. Et ensuite, on remontera dans le temps. Nous lisons dans Juges, chapitre 16, verset 4. Juges, chapitre 16, verset 4. Après cela, donc Samson aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 sicles d'argent. » Delila dit à Samson « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter ?» Samson lui dit « Si on me liait avec cette corde fraîche, qui ne soit pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Delila cette corde fraîche, qui n'était pas encore sèche, et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il rompit les cordes, comme seront un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delila dit à Samson, « Voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Et il lui dit, « Si on me lie avec des cordes neuves, dont on ne se soit jamais servi, je deviendrai faible, et je serai comme un autre homme. » Delila prit des cordes neuves, avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Or, des gens se tenaient dans l'embuscade dans une chambre. Il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delila dit à Samson, « Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Et il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les sept tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. » Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire « Je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi ? Voilà trois fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où venait ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner, par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. « Je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. » Delila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les sept tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je mentirai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, ses cheveux recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, « Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. » Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur dieu en disant, « Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. » Dans la joie de leur cœur, ils dirent, « qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. » Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 hommes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit: « Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. » Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles il reposait la maison. Et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit: « Que je meure avec les Philistins. » Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent et entre Tsoréa et Eshtaol dans le sépulcre de Manoac, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Amen. Samson, c'est un héros biblique qui fait rêver tous les enfants. Dans le livre des juges, on a plusieurs libérateurs. On a Gédéon et on a Samson. Gédéon, je l'imagine un peu gringalé. Rappelez, quand l'ange vient le voir, je suis le plus petit, tout ça, on sent quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Mais il va devenir un libérateur. Samson, c'est autre chose. On l'imagine costaud, même si ce n'est pas forcément vrai. En tous les cas, Samson a cette capacité, seul contre tous, ça ne lui fait pas peur. À un moment donné, il va tuer 1000 hommes tout seul. C'est le héros qui correspond un petit peu aux jeunes d'aujourd'hui. Entre Gédéon et Samson, les enfants choisissent Samson, hein, et même les plus grands certainement. Sauf que quand on regarde l'histoire de Samson, il y a quand même un sentiment de gâchis. On se dit, avec un homme comme ça, qui a tant reçu, qui avait tant de pouvoir, comment ça se termine? Ça nous fait mal au cœur. Ça laisse un goût amer. David, le roi David, composera une complainte quand il apprendra la mort de Saül et Jonathan. Il composera un chant funèbre. Et il dira pas trois fois dans ce chant: mais comment des héros sont-ils tombés? Il pose la question. Et c'est un peu la question qu'on va se poser. La Bible ne nous dit pas que Samson a échoué dans sa maison. Lorsque l'ange est venu vers les parents de Samson, l'ange lui a dit: c'est lui qui commencera à délivrer Israël. Mais néanmoins, il est normal de penser que Samson n'est pas allé au bout de sa mission et qu'il y a eu échec. Il a commencé à délivrer Israël, mais je pense qu'il aurait dû aller beaucoup plus loin. Parce que quand on regarde la suite, on voit que Israël n'en aura pas fini avec les Philistins. Saül va se battre toute sa vie avec les Philistins, même s'il poursuivait David, ce qui faisait qu'il ne pouvait pas se livrer complètement contre eux. Et finalement, David, quand il sera roi, va aussi avoir comme ennemi numéro un les Philistins. Et c'est David qui mettra fin aux Philistins. Quand vous lisez la suite des rois, vous n'entendez plus parler des Philistins. L'ennemi numéro un redevient les Syriens. Donc c'est finalement David qui a mis fin aux Philistins. Je ne pense pas que c'était prévu que ça prenne si longtemps pour se débarrasser des Philistins. Quand on lit l'histoire de Samson, on est un peu soulagé de voir qu'il s'est ressaisi. Le texte ne nous dit pas qu'il s'est repenti, mais son attitude montre une amorce de repentance. Il fait preuve d'humilité. Il invoque le Seigneur, il ne veut plus agir seul, mais il demande au Seigneur son aide et son secours. On sent une amorce de repentance, tant mieux. Et quand on pêche, c'est vraiment essentiel de se repentir. Mais ça laisse toujours quand même ce sentiment de gâchis. Ça laisse toujours quelque chose. Ce matin, on va considérer un petit peu la chute de Samson. Les deux prochains dimanches, on verra ce qui n'a pas empêché la chute de Samson et ce qui a provoqué la chute de Samson. Mais lorsque je regarde Samson dans ce moment-là avec Delila, et puis ensuite on le voit en train de tourner sa meule, Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'effraie. Le grand Samson, celui qui était si fort, on le voit comment il a été dompté. Nous avons un Dieu qui nous a donné sa force. Et il nous a rendus puissants. Il a mis en nous, ou à notre disposition, toutes sortes de ressources. Mais nous ne perdons pas de vue que nous avons un ennemi puissant. Et notamment dans nos ennemis, nous avons affaire à quelque chose qui est puissant, c'est le péché. Le péché, c'est une force de destruction. Et je voudrais dire certaines choses. Regardez, le péché, c'est une puissance de séduction et de mensonge. Ils vont dire, les Philistins vont dire à Delila, séduis-le, flatte-le. Et on sait très bien que le péché, c'est des fois, c'est sournois. On peut se faire avoir, on peut se faire tromper. Le péché, c'est une puissance de tourment. Vous avez vu Delila, tous les jours, elle mettait le paquet. Et à l'usure, elle l'a eu. Hein. Samson, il était tourmenté continuellement par Delila. Elle le sollicitait. Elle revenait à la charge, elle passait par un biais, et le péché agit de la même manière sur nos vies. Ça nous rappelle un autre passage. Ça nous rappelle ce texte qui dit au sujet de Lot. Dans la ville de Sodome, il tourmentait journellement son âme continuellement. Je ne sais pas si vous avez repéré ce texte dans l'épître de Pierre. Et puis ça me rappelle un autre texte. C'est Joseph. Où Madame Potiphar, elle y allait elle aussi, hein. Elle y allait à la charge. Mais Joseph, il a eu la bonne attitude. Hein. Il s'est sauvé. Et autant il y a des choses qu'il ne faut pas fuir dans la vie, qu'il faut les affronter, autant le péché, des fois, il faut le fuir, pour ne pas dire toujours. Le péché, c'est une puissance qui nous anesthésie, qui nous endort. Regardez comment elle va l'endormir sur ses genoux. Nous, on regarde la scène, mais on dit, mais qu'est-ce que tu fais, Samson ? T'endors pas ! On voudrait le réveiller, si ça pouvait être interactif, on enverrait des choses. Mais il s'endort, il s'assoupit, il ne réagit plus. Et le péché a cette faculté-là aussi de nous endormir. À des fois, ça nous fait réagir au début, puis à force de voir les choses, de les entendre, de les sentir, on ne les sent plus. Lorsque j'étais à l'armée, dès qu'on rentrait dans la chambre, le soir c'était fini, on aimait enlever les Rangers. Mais quand on enlevait les Rangers, ça sentait pas bon dans la chambre. Mais quand on était dans la chambre, nous, on sentait rien. Par contre, celui qui rentrait un quart d'heure après, oh ! Mais le péché agit de la même manière. Nous, quand on est dedans, on ne sent plus rien. Mais de l'extérieur, vous voyez, on n'a plus cette odeur-là. Le péché, c'est une puissance qui nous endort. Je pense aussi à autre chose. Il y a quelques années, j'étais dans un mariage, j'étais un jeune chrétien, et on était au mariage d'un jeune frère, et puis donc le soir, c'était le soir, moi je m'ennuyais un peu, on regardait, et je voyais un gars danser, là, il faisait le rock, et il buvait la coupe de champagne, il était avec une dame, et je voyais qu'il était dans son élément, quoi. Il n'y avait rien de choquant plus que ça, mais je le regardais. Et puis à un moment donné, là, une sœur à côté me dit, tu vois ce gars ? C'est un ancien pasteur stagiaire. Ouf. Et là, je l'ai regardé autrement. Ça m'a mis un coup parce que j'aurais misé tout ce que j'avais pour dire ce gars, il ne connaît pas le Seigneur. Quoi. Et il l'avait connu, mais il était comme les autres. Et on se dit, ce gars qui a prêché l'Évangile, s'il s'était mis à servir le Seigneur, c'est qu'il y avait un zèle, il y avait des choses. Où il était tombé, complètement endormi, anesthésié par le péché. Le péché, c'est une puissance qui nous rend bêtes, qui nous abrutit. Excusez-moi de parler comme ça, mais quand on voit son sang qui joue là, on voit tous le manège de Delila, mais lui, il ne voit rien. Alors bien sûr, elle le teste, elle cache, elle est habile, mais on a envie de dire... On aurait dit à Samson, mais regarde, tu vas te faire piéger, réagis. Il aurait dit, mais je gère, moi, tu gères quoi? Dans Proverbe, chapitre 7, verset 7, il est dit, j'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens, un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée. au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Au verset 21, il dit, elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Le péché, c'est une puissance d'aveuglement. On lui a crevé les yeux à Samson. Récemment, je parlais sur Balaam, qui avait une capacité à recevoir la pensée de Dieu, mais dès qu'il commence à prendre une mauvaise voie, il perd son discernement. Le péché, c'est une puissance d'enchaînement, bien sûr. Samson, on l'a lié de chaînes d'airain. Mais avant, déjà, il était lié un petit peu de cordes. Alors, c'était que des cordelettes pour lui. Mais déjà, on y allait. Ça fonctionne de cette manière-là. Et le péché, il cherche à nous enchaîner. Ça peut être par des obsessions. Ça peut être par des pensées captives. Ça peut être par des addictions. Ça peut être par des fréquentations. Ça peut être par des raisonnements. Ça peut être par des habitudes. Il faut y parer. Il faut 21 jours pour prendre une bonne habitude et il faut 3 jours pour prendre une mauvaise. Et pour se débarrasser d'une mauvaise, c'est dur, hein. Et c'est une puissance d'enchaînement. Le péché, c'est une puissance d'errance, sans but. Avant de connaître Jésus, on était sans but. Errant. On tournait en rond. Comme Samson. Il tournait en rond. Et puis un jour, on a découvert la grâce. Et Dieu a mis en nous du sens à notre vie, des buts. On veut connaître Jésus. On veut le servir. On veut communiquer le bonheur autour de nous. Communiquer la vie. Voilà les buts, à peu près. Mais quand le péché reprend ses droits, quand on le laisse reprendre dessus, on perd vite ces buts-là de vue. On perd tous ces objectifs-là et on recommence à tourner en rond, à errer. Et puis le péché, c'est une puissance qui nous humilie, une puissance d'humiliation, qu'on appelle Samson et qui nous divertisse. Et c'est devenu le jouet. Alors on devait lui mettre un coup de pied pour le faire bouger. Comme il ne voyait rien, il était comme ça, il s'amusait de ça. Et le péché a humilié, je me mets à la place de Samson, là, ça devait faire mal. Hein. Même quand on a reçu le pardon de nos péchés, des fois nos péchés passés continuent de nous humilier. On a envie de dire, Samson, qu'est-ce que tu nous as fait là? Je voudrais, maintenant que j'ai dit ça, donner quelques recommandations importantes. Je suis conscient de dire des choses qui sont solennelles ce matin. Mais c'est bon de temps en temps et je me place en premier dedans. Le premier conseil que je donnerai, frères et sœurs, ne perdons jamais de vue notre vulnérabilité et notre faiblesse. Samson va dire au départ à son réveil, je m'en tirerai comme les autres fois. Eh non. Mais cette déclaration, ça respire un peu la suffisance. Et on dit, et la Bible dit, l'orgueil précède la chute. C'est un proverbe même dans le langage courant, mais c'est biblique. Et Samson, il s'est cru au-dessus des lois. Il pensait que les principes de précaution, les règles élémentaires, c'était pour les autres. Mais lui, il en était dispensé. Quand on commence à penser comme ça, et qu'on commence quelque part à être atteint d'une certaine immunité, on est en danger. Quand on pense que les règles sont pour les autres, et plus pour moi. Et ça, il faut absolument veiller là-dessus. Et on ne doit jamais perdre de vue la conscience de notre faiblesse. On est plein d'assurance en Jésus-Christ. Mais en même temps, on ne perd pas de vue qu'on est vulnérable. Et là, il y a un équilibre à trouver. David disait dans sa prière, « Dis-moi combien je suis faible. » Et il dira aussi, « Je me suis tenu en garde contre mon iniquité. » Et David, autant il a chuté des fois, autant cette conscience de la faiblesse lui a évité de tomber dans certains pièges. Par exemple, à un moment donné, il remporte une victoire contre les Philistins. Et plutôt que de se croire, c'est, ils reviennent, on va leur remettre une deuxième match retour. Il va consulter Dieu. Et Dieu va justement lui dire, fonctionne autrement. S'il était tombé dans le piège de la suffisance, il serait fait avoir. Ne perdons pas de vue la conscience de notre vulnérabilité, de notre faiblesse, même dans les domaines où nous sommes forts. Je dirais presque surtout là même. Je suis toujours étonné de la chute de Samson. Samson, c'est l'homme qui a la sagesse. Et il pêche par quoi ? Il chute par quoi ? Un manque de sagesse grossier. C'est... Je ne sais pas sur quoi on se sent fort. Mais je veux faire attention sur les domaines où je me sens plus fort. Le deuxième conseil que je donnerai, frères et sœurs, soyons allergiques, c'est un mot à la mode, soyons allergiques à la flatterie. Flatte-le, vas-y, bichonne-le, dis-lui qu'il est beau, qu'il est... Delilah, elle devait dire, comme t'es fort, Samson, j'ai jamais vu quelqu'un comme toi. Tes exploits sont fantastiques. Si tu me disais ton secret, on voit donc, on pourrait faire des super trucs. Et elle a dû lui parler comme ça. Et le monde de la politique, il use de la flatterie. C'est une arme. Je me rappelle un jour, on avait un maire qui venait à une réunion publique. Mais il a dit deux, trois mots, mais il nous a encensés. Et ça sentait pas vrai. Je pense à ce passage lorsque Tertulle vient accuser Paul et il se présente devant le gouverneur Félix. Il aurait presque sorti le violon et il va lui dire « Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. » Et ça sent le pipeau, excusez-moi de parler comme ça, ça sent le mensonge. C'est de la flatterie. Mais si le gouverneur, il avait envie d'entendre ça, le monde du commerce use de la flatterie. Un jour, une dame a vu mon épouse, elle était assistante maternelle, elle lui a dit, vous êtes la personne qu'il me faut. Elle ne la connaissait pas. Mais c'est les techniques, ça. Mais c'est faux. Les gens aiment qu'on les flatte d'une manière générale. Je vais piquer un peu, là. Mais sur les comptes Facebook, quand j'ai mis quelque chose et que les gens ils ont mis « je like »,« j'aime », quelque part, ça flatte un petit peu l'ego. Ou des flammes, parce que je ne connais pas. Hein, les. Mais quelque part, ça fait réfléchir là-dessus. On l'observe même dans le monde évangélique. Hein. Des fois, on reçoit un prédicateur, on met « pasteur de méga church », de des choses comme ça. Et je dirais aussi attention à cet évangile qui flatte l'ego. Le Seigneur, il a un super projet pour toi. Oh, il y a de grandes choses. On a l'impression des fois, écouter certains, heureusement qu'on s'est converti, parce qu'on se demande comment l'Église a avancé quand tant qu'on n'était pas là. Mais j'aime la réaction de Nathanaël. Quand Jésus voit Nathanaël, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et Nathanaël dit, ah, quelqu'un qui s'y connaît. Non, il ne dit pas ça. Hein. Il dit quoi ? D'où tu me connais ? Il parle presque un peu comme quelqu'un du quartier. D'où tu me connais ? Mais Jésus lui dira, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Donc il s'est passé quelque chose sous le figuier que Jésus et Dieu seul pouvaient voir. Et la réaction d'Nathanaël montre justement qu'il est sans fraude. Parce qu'il aurait pu apprécier, tu me connais, non, non. Et quand Jésus lui a dit ça, là je reconnais. Là, je reconnais que t'es... Et l'attitude, elle montre. Paul dira aux Thessaloniciens, nous parlons non comme pour faire plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. La flatterie, c'est une arme de ce monde, mais pas une arme de ceux qui prêchent et qui prônent la vérité. Oui, à l'encouragement mutuel. Hein. Des fois, on n'ose pas encourager pour ne pas flatter, non. Mais non à la flatterie. La différence, bien sûr, c'est déjà la vérité, et puis c'est surtout la motivation. Elle est là, la différence. Oui, à l'amour de la vérité, mais non à l'envie d'entendre des choses agréables. Et on est cette génération-là, et je dis bien, je reviens sur cet évangile qui touche ce côté-là aujourd'hui. Cet évangile qui bichonne les gens, c'est attention à ça. Attention aussi au faux pas juger. Hein. Parce que derrière un faux pas juger, il faut pas me dire des choses désagréables. Et ça, c'est pas bon. D'accord, le jugement, c'est une question difficile dans la Bible. Mais attention. J'insiste, je ferme mon point là. Soyons allergiques à la flatterie, frères et sœurs. Un troisième conseil. Ne jouons pas avec la tentation et le péché. Samson, il a voulu jouer avec Delila au jeu du chat et à la souris. Mais il y a un problème de casting. C'est que lui, il pensait être le chat. Et en fait, il était là, souris. Et là, il s'est bien trompé. On trouve une malheureuse illustration du proverbe 6, versets 27 et 28. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? La tentation, c'est un sujet difficile. Il y a le fait d'être tenté, c'est pas une faute. Et il y a le fait de succomber à la tentation, c'est une faute. Mais c'est tout ce qu'il y a au milieu. Parce que la tentation, c'est un processus, comme le décrit Jacques. Jacques qui dit la tentation, elle suggère, elle amorce, elle nous remue, elle suscite des convoitises, et puis un jour, ça produit des actes, des paroles et des choses. Et là, il y a tout un cheminement. Et des fois, c'est ce que la Bible appelle entrer en tentation. Et c'est le sens de la prière de Jésus. Quand il dit dans Matthieu 6, hein, dans le Notre Père, quand il demande et qu'il dit, il dit ceci, quand il prie, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. C'est le sens. Et nous, on doit veiller là-dessus. Parce que des fois, on n'est pas toujours très clean. Samson, il aurait dû faire comme Joseph, hein. On lit, hein, je l'ai relu, il s'est marqué chez elle, il était chez elle, il n'avait rien à faire chez elle. Jésus pouvait dire, le diable, il n'y a rien en moi. Nous, on ne peut pas le dire. Mais on veut tendre vers une telle déclaration. On veut aller dans ce but-là. Et Jésus était capable de manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, les prostituées. Il était très près du pécheur et il n'y avait pas plus éloigné que lui du péché. Nous, je ne sais pas si on serait capable de faire ça. Mais ça veut dire que il faut savoir se protéger. On va être près des gens, mais en même temps, il faut savoir mettre une distance. Ça m'a rappelé cette anecdote. C'est un homme qui cherchait un chauffeur. Et il y a trois candidatures qui se proposent. Il y a un premier candidat qui se propose et l'homme qui veut l'embaucher lui dit, tu sais, il y a un passage difficile là. Comment vous feriez? Oh là, mais moi je peux rouler à 1 mètre du précipice sans problème. Et puis le deuxième vient, moi je peux à 50 cm sans souci. Et le troisième vient, je sais pas, mais moi je vais coller de l'autre côté, je vais longer la paroi. C'est lui qui a été pris. Parce que vous savez, avec le péché, on ne sait pas juste qu'on peut s'en approcher, mais le but justement c'est qu'on veut s'en éloigner. On veut avoir ce réflexe-là. Un quatrième conseil. Pensons toujours aux conséquences du péché. J'imagine Samson tournant en rond. Les yeux crevés, donc seul avec ses pensées et ses souvenirs. Il devait peut-être penser à ses parents qui avaient tout donné pour qu'il puisse réussir dans sa mission. Peut-être au conseil de sa mère quand il lui disait « Ne va pas avec cette Philistine ». Et puis peut-être qu'il pensait à tous ces gens qu'il côtoyait quand il arrivait dans le village, les petits courir après lui, Samson. Tout cela, il les avait déçus. Tout ça, c'est pourquoi je dis ça. Parce que ne perdons jamais de vue les conséquences du péché. Des fois, pour un moment présent, un moment de plaisir immédiat, et le plaisir, c'est un goût amer derrière. C'est un goût amer. Des fois, on va voir quelque chose, hop, on prend dans la caisse. Ah, sur le moment, ça arrange peut-être, ça permet de finir le mois. On est dans une prison et un jour ça va ressortir. Pensons toujours, frères et sœurs, aux conséquences du péché. Un cinquième conseil, j'en ai 6. Hein. Ouvrons notre cœur aux bonnes personnes. Samson va finalement lui ouvrir tout son cœur, il nous est dit. Et lui dévoiler les secrets de sa force. Le secret de sa force, qui n'était pas dans la longueur de ses cheveux, mais qui était dans la présence de Dieu et dans sa consécration. D'ailleurs, c'est intéressant, mais on découvre que le secret de sa force par rapport à ses cheveux est qu'au chapitre 16. Hein, on ne le sait pas avant. On le découvre que là. Mais ça m'interpelle parce que à qui il a ouvert son cœur ? Et mon frère, ma sœur, à qui tu ouvres ton cœur ? C'est à lui qu'on ouvre notre cœur d'abord. Et il est celui qui sonde nos cœurs. Il est celui qui veut... Je pense à ce texte où certains diront, Seigneur, on a prophétisé en ton nom, on a fait des miracles en ton nom, on a fait plein de trucs. Jésus dira, retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu, c'est là la clé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai jamais pu pénétrer dans votre cœur. J'ai jamais pu vous connaître dans votre intimité. J'ai des fois voulu atteindre et j'y suis pas arrivé. Ça veut dire ça. Et ça doit... On a un Dieu qui veut nous connaître. C'est à lui qu'on doit ouvrir notre cœur. Le salut, c'est pas un billet d'entrée, frères et sœurs. Mais c'est une qualité de vie que nous avons en Jésus-Christ. Et puis, j'ouvre mon cœur à mon conjoint. Point. Je dirais... Et j'ouvre mon cœur à la rigueur, à un bon ami. Mais j'ouvre pas mon cœur, allez, je retire dessus, à un ami sur Facebook où je ne sais pas qui c'est, derrière. Et encore moins à quelqu'un du sexe opposé. Parce que quand on commence à faire ça, et ben c'est une porte ouverte. Hein. C'est vraiment important. Plusieurs fois, j'ai vu que des dérapages ont commencé de cette manière-là. Frères et sœurs, on ouvre son cœur à Dieu, à son conjoint. À la rigueur, on peut avoir un bon ami, quelqu'un sur qui on peut compter, à qui on va partager des choses. Mais faisons attention. Si je trouve j'ouvre mon cœur à quelqu'un du sexe opposé, je vous laisse deviner ma crainte. Et puis un dernier conseil. Je suis conscient de dire des choses importantes ce matin, mais c'est bon de temps en temps d'y revenir. Et on est tous à la même enseigne. Un sixième et dernier conseil, cultivons la présence de Dieu. On ne veut pas vivre dans l'illusion de sa présence, mais dans sa présence et dans la manifestation de sa présence. Je m'en tirerai comme les autres fois, et il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Ce matin, je lisais dans ma lecture, dans le livre de Nombres, quand Dieu dit, vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence, c'est le genre de choses qu'on ne veut jamais connaître. Et je crois que la présence de Dieu, c'est quelque chose d'important. Je parlais tout à l'heure sur Gédéon comme sur Samson, mais leur force, elle était là. Elle était que Dieu était avec eux. Rappelez-vous, quand Dieu parle à Gédéon, trois fois, il dit, va avec la force que tu as, je suis avec toi. L'Éternel est avec toi. Et c'est ça la force. Et finalement, Samson ne s'est pas dit comme ça, mais à un moment donné, Dieu s'est retiré et il est sans force. J'aime bien ce passage aussi. Quand Dieu dit, c'est après le passage du veau d'or, et Dieu dit ceci à Moïse, monte vers le pays que je vous ai donné, j'envoie mon ange, mais moi j'y vais pas. Il s'est pas dit comme ça, il dit, je ne monterai point au milieu de toi. Et qu'est-ce que dit Moïse ? J'aime bien la réponse de Moïse. Moïse dit, si tu ne viens pas avec nous, ne nous fais pas partir. Vous voyez, il préférait vivre dans le désert, avec Dieu, que vivre dans Canaan, les oasis et tout ce que vous voulez, avec l'ange. Mais c'est quelque chose d'important pour nous, frères et sœurs, de cultiver la présence de Dieu. Et on sait ce qui nous y introduit. L'œuvre de Christ au calvaire. Le nom de Jésus. C'est l'action de son esprit, la parole de Dieu. Ce sont toutes ces choses-là qui, en les laissant pénétrer notre cœur, elles nous introduisent dans la présence de Dieu. On sait aussi ce qui nous en éloigne, le péché. Et je crois que c'est important pour nous de cultiver la présence de Dieu. Et je dis bien pas l'illusion de la présence, mais de cultiver. Alors des fois, on la ressent. Des fois, on ne la ressent pas. Ne limitons pas la présence de Dieu à un ressenti. C'est plus vaste que ça. C'est plus grand que ça. Tant mieux des fois quand on la ressent. Hein, quand même, des fois, le ressenti, ça peut nous tromper. Mais je termine. Frères et sœurs, ces choses, elles ont été écrites pour notre instruction. Hein. On est, je ne sais pas combien de temps, 3000 ans après, 4000 ans après, mais on a le même combat. Hein. Le péché, il est toujours là. Mais on a encore plus de ressources que Samson. Nous avons Jésus qui a donné sa vie pour nous. Christ a fait sa demeure dans notre cœur. Et il est celui qui veut nous aider. Rappelons-nous que dans ce domaine-là, il y a la part de Dieu et il y a notre part. Dans la sanctification, dans la mise à part, dans la consécration, il y a la part de Dieu et il y a la nôtre. Notre part, c'est vraiment nous attacher à Dieu. Mais Dieu, il fera la sienne. Hein. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. On a un Dieu qui prend soin de nos vies, il veut nous aider. Dieu est conscient de l'époque qui est la nôtre. On vit dans un monde de péché, une atmosphère de péché. On a vraiment besoin de sa grâce. Mais en même temps, il y a une part qui est la mienne. Et celle-ci, je veux pas manquer. Retenons les conseils, je vous les redis simplement. Mais rappelons-nous, ne perdons jamais de vue notre vulnérabilité et notre faiblesse. J'ai dit ensuite, soyons allergiques à la flatterie, mais aimons la vérité. J'ai dit ensuite, je vais faire un peu dans les feuilles, j'ai dit aussi, pensons toujours aux conséquences du péché. Ouvrons notre cœur aux bonnes personnes, cultivons la présence de Dieu. Et puis ne jouons pas avec la tentation et le péché. Que le Seigneur nous aide. On va prier le Seigneur.